Radio Grenouille.
La rédaction vous invite pendant 10 minutes.
Géographie de la pensée critique. Pensée l'émancipation.
10 minutes avec.
10 minutes avec Julien Cavanis, qui est doctorant en philosophie. Julien Cavanis, qui a proposé dans le cadre du colloque Penser l'émancipation à l'Université Paroisse Nanterre du 19 au 22 février, une intervention qui avait pour titre La critique foucauldienne de l'idéologie, sa portée problématique, son évolution et ses résultats. Julien Cavanis, bonjour.
Bonjour.
Je disais donc critique de l'idéologie par Foucault, et vous nous avez expliqué lors de votre intervention qu'il a rencontré le paradigme de l'idéologie dans son travail autour du rapport entre savoir et pouvoir, et que là, il a proposé une critique de l'idéologie de deux ordres, disons. Une idéologie qu'il refute parce que s'appuyant sur le concept de vérité, et puis refusant l'idéologie parce qu'elle sous-entend aussi l'idée d'un sujet. Or, vérité seule et sujet seul sont deux choses que Foucault réfute. Est-ce qu'on peut revenir sur ces deux points ?
Oui. Alors, avant d'y revenir, effectivement, cette question de l'idéologie et la critique foucauldienne du paradigme d'idéologie intervient au moment où Foucault décide d'opérer une réorientation dans ses recherches après l'archéologie du savoir en 1969, lorsqu'il décide de ne plus s'intéresser aux procédures de mise en ordre et les règles interne à la production des discours, comme il l'avait fait auparavant, mais quand il décide de s'intéresser à la production des discours et donc effectivement à ce qu'il va appeler le pouvoir-savoir, c'est-à-dire les relations qu'il peut y avoir entre des formes de savoir et des formes de pouvoir. Et effectivement, à ce moment-là, le paradigme de l'idéologie se présente à lui de manière assez évidente, puisque c'était le paradigme qui, depuis Marx, avait pris en charge conceptuellement ce rapport entre, les idées et le politique ou le pouvoir. Alors effectivement, il arrive à cette... Il prend comme figure tutélaire pour problématiser ce couple, pouvoir et savoir, Nietzsche et non pas Marx. Et donc, c'est assez significatif et ça va s'accompagner très rapidement d'une critique du paradigme de l'idéologie duquel Foucault va vouloir se distinguer.
Alors, pour schématiser un peu, c'est l'idée qu'il n'y a pas de savoir sans rapport, disons, de pouvoir. En tout cas, le savoir est toujours impliqué dans des effets de pouvoir, disons, pour schématiser. Et que l'idéologie repose aussi sur l'idée qu'il y a, hors de l'idéologie, un champ de vérité qui serait, lui, désengagé de tout rapport de pouvoir, qui serait un champ de vérité pur.
Mmh. Oui, donc c'est ça, effectivement, le premier point sur lequel il refuse ce paradigme de l'idéologie. C'est que selon lui, lorsque Marx ou lorsqu'encore Althusser parle d'idéologie, il définit ce terme nécessairement en contradiction avec ce qui serait non idéologique, et donc ce qui serait le réel ou la vérité, ou le scientifique. Cette conception, finalement, s'appuierait sur l'idée qu'il existerait quelque part du vrai qui ne serait pas pris dans des enjeux ou dans des effets de pouvoir. Et effectivement, sur ce premier point, Foucault porte une position beaucoup plus radicale, au fond, que celle portée par Marx, puisque, selon lui, la vérité elle-même est toujours déjà remplie de pouvoir, de questions, d'enjeux de pouvoir. Et à mon avis, il faut bien voir ce que ça implique lorsque Foucault parle d'une histoire politique de la vérité, et non pas simplement une histoire politique des représentations, des idées, des croyances, etc. C'est-à-dire que pour lui, la vérité est toujours déjà produite dans des domaines, par des manières qui sont déjà de l'ordre du pouvoir et portent toujours des effets de pouvoir. Donc c'est le premier point, effectivement, qu'il cible pour se distinguer de ce paradigme de l'idéologie.
Le deuxième point serait qu'avec l'idéologie sous-entend l'idée d'un sujet, dominé par cette idéologie. Et là, Foucault refuse, cette idée d'un sujet a priori.
Oui, c'est le deuxième point. Dans le paradigme de l'idéologie, pour le schématiser un petit peu, il y aurait donc de l'infrastructure ou une situation des moyens de production, etc., qui produirait une superstructure ou une idéologie qui, elle-même, s'incorporerait ou remplirait un sujet et donc constituerait un certain nombre de représentations chez ce sujet. Et pour Foucault, donc, le paradigme de l'idéologie présuppose nécessairement un sujet de connaissance qui serait a priori et qui serait simplement rempli par un certain nombre de représentations idéologiques. Et donc il y aurait, dans cette théorie marxiste de l'idéologie, le maintien de quelque chose que Foucault critique de manière assez forte, assez régulièrement, le maintien de ce qu'il appelle donc la théorie du sujet a priori ou du sujet transcendantal, c'est-à-dire l'idée donc qu'un sujet préexisterait à diverses représentations ou diverses idées ou connaissances duquel il serait simplement rempli.
Mais est-ce que cette critique du sujet a priori ne lui permet pas en définitive de pouvoir placer une autre théorie du sujet, car il y en a une chez Foucault, qui est celle d'un sujet non pas a priori, mais un sujet qui se constitue dans la relation de pouvoir et dans la relation savoir-pouvoir.
Oui, c'est ça. Le sujet existe chez Foucault, mais simplement existe à la fin, existe comme effet.
Comme conséquence.
Comme conséquence. Le sujet est une conséquence de différents rapports de pouvoir ou de différents savoirs. Et donc là, on touche effectivement la théorie du pouvoir chez Foucault, c'est-à-dire que le pouvoir chez Foucault est précisément non pas seulement ce qui viendrait limiter des sujets, limiter des volontés, mais les rapports de pouvoir pour Foucault constituent positivement certaines formes de subjectivité. Et lorsque Foucault parle d'assujettissement, un terme qu'il peut reprendre à une certaine tradition marxiste, il fait un petit jeu de mots, si on peut dire, puisque pour lui, assujettissement est à prendre au sens strict, c'est-à-dire construction d'un sujet. Et par voie de conséquence, il n'y a aucun sujet qui puisse exister avant un assujettissement.
Qui, par exemple, les conséquences, en tout cas d'un point de vue théorique, et sur les enjeux, par exemple, du terme d'aliénation, qui est un terme plutôt marxiste, où là, effectivement, la notion d'aliénation saute complètement dans la pensée foucauldienne.
Elle tend à sauter, tout comme la notion de libération, d'ailleurs, puisqu'il n'y a plus rien à libérer, ou plus rien à désaliéner, puisque le sujet ou l'homme est toujours déjà, dès le début, constitué par des rapports de pouvoir.
Alors si le colloque s'appelle « Penser l'émancipation », alors s'il n'y a plus rien à libérer ou à désaliéner, y a-t-il encore à émanciper ?
Alors il y a, c'est une vaste question, et y a-t-il une pensée de la liberté tout de même chez Foucault ? Alors c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre en quelques mots. Je pense qu'il y en a une, mais je pense qu'il y en a une, et là aussi on peut faire un petit... On peut remarquer un petit jeu, si on veut. Il y a une théorie ou une conception de la libération, ou plus précisément de la lutte ou de la révolte. Sauf que là encore, elle n'est plus à la fin du processus, comme dans le processus de la libération, mais elle est ce qui est au début pour Foucault. Et elle est même ce qui est avant même toute théorisation et avant tout travail de l'intellectuel. C'est-à-dire que pour Foucault, et là on touche aux implications politiques que porte cette critique du paradigme de l'idéologie, la lutte est quelque chose qui existe, est un fait premier constitutif de l'histoire pour Foucault, et au lieu, et on touche ici à sa conception du rôle de l'intellectuel et du rapport de l'intellectuel aux différentes luttes, les luttes préexistent à toute réflexion d'ordre intellectuel ou conceptuel, et l'intellectuel n'est là que pour tirer de ces luttes des transformations, des effets de vérité, comme dit Foucault, des transformations de diverses sortes, que l'intellectuel ne peut tout au plus que poursuivre, développer dans l'ordre du savoir. Et l'intellectuel ne peut faire que tirer au mieux des conséquences d'ordre conceptuel, d'ordre théorique, de luttes qui sont effectives. Et par exemple, si on prend l'exemple de Surveiller et punir, ou les travaux de Foucault sur la psychiatrie, jamais Foucault ne dit ce qu'il faut faire pour bien condamner ou pour mieux respecter un condamné. Il ne dit pas ce qu'il faut faire pour mieux gérer un fou. Il s'appuie à l'inverse sur des luttes premières, luttes de condamnés ou luttes de fous dans les hôpitaux psychiatriques, et à partir de là, il tire un certain nombre de conséquences et de réformes dans la pensée de l'histoire de l'asile ou de la prison, etc.
Ça, c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, on ne peut pas dire que Foucault est un intellectuel engagé, qu'il faut donc dissocier la notion d'intellectuel qui effectivement observe les lignes des fuites, c'est un champ d'observation, une certaine expertise peut-être, et puis la partie engagée qui là est l'engagement de tout individu, en dehors de spécificités d'intellectuel ou de non-intellectuel. Donc cela, est-ce qu'on pourrait dire que du coup la caractéristique première chez Foucault de sa pensée du sujet, c'est celle du soulèvement?
De sa pensée, peut-être pas du sujet, mais de sa pensée de l'histoire.
De l'histoire, oui.
Le soulèvement ou la lutte, ou les termes qu'il utilise souvent sont aussi ceux de stratégie ou de tactique. Pour lui, effectivement, l'histoire est principalement constituée d'un ensemble de luttes, de stratégies, d'opposition. Il parle souvent du modèle de la guerre pour penser l'histoire. Et si on peut dire, effectivement, comme vous dites, l'intellectuel comme travail d'expertise, mais jamais de prescription. Un travail d'expertise qui cherche dans cette histoire, dans la période présente, pour contemporaine de l'intellectuel, qui cherche des petites choses qui sont changées par certaines luttes. Et donc l'expertise va essayer de tirer les conclusions au niveau théorique de ces luttes, mais ne va jamais essayer de dire à ces luttes ce qu'elles doivent faire. Et donc là, on a effectivement un positionnement complètement inverse entre intellectuel et lutte, de celui qu'on pouvait trouver chez certains marxistes, par exemple.
Ou la figure de Sartre.
Ou la figure de Sartre qui avait tellement épouvanté Foucault assez rapidement.
Une des autres conséquences politiques de cette critique de l'idéologie, vous la situez du côté du paradigme de la révolution, et vous nous dites que finalement Foucault est assez critique à l'égard de la notion de révolution, car finalement, selon lui, elles pourraient d'une certaine manière, ou elles interviennent à même les luttes, elles les canalisent selon des logiques qui ne sont plus les logiques de la lutte.
Oui, j'ai voulu essayer de connecter cette critique foucaultienne de l'idéologie avec d'autres points auxquels on ne pense pas nécessairement, mais qui sont à mon avis qui sont sous-tendus par cette critique du paradigme de l'idéologie. Et la conception du lien entre lutte et révolution en fait à mon avis partie de manière très forte. C'est que effectivement, pour Foucault, ce modèle de la révolution a été un modèle qui a cherché au fond à canaliser les luttes dans leur caractère assez peut-être désordonné, en tout cas donner à ces luttes une raison, un projet, inscrire ces luttes par exemple dans le cadre de l'État, inscrire ces luttes dans le cadre d'une philosophie de l'histoire, etc. Et pour Foucault, il y a effectivement ici aussi un rejet assez fort de ce modèle de la révolution auquel il préfère le modèle de la lutte ou du soulèvement. Inutile de se soulever, un article qu'il a écrit très peu de temps après ses articles sur l'Iran théorise cela de manière très forte. C'est-à-dire, au fond, ce modèle de la révolution serait une manière de réintégrer les luttes à un modèle d'ordre et de stabilité qui serait celui de l'État et de la philosophie de l'histoire, grosso modo.
Un des auditeurs, lors de votre intervention, a finalement posé la question, mais comment peut-on alors penser les bonnes ou les mauvaises luttes? Ce à quoi vous aviez répondu, ce que vous venez de dire tout à l'heure, c'est-à-dire ce n'est pas la question de l'intellectuel de poser les bonnes ou les mauvaises luttes. Cela dit, il y a bien des bonnes et des mauvaises luttes. Or, penser l'émancipation, est-ce que ce n'est pas penser les bonnes ou les mauvaises luttes aussi?
Pour Foucault, penser l'émancipation ne pourrait signifier que penser des émancipations qui ont eu lieu ou qui ont lieu et desquelles l'intellectuel tire un certain nombre de conséquences au niveau intellectuel ou au niveau conceptuel, au niveau théorique. Et penser l'émancipation ne peut pas dire, pour un Foucault, essayer de prédéfinir à l'avance un programme d'émancipation qu'ensuite différentes luttes devraient mettre en pratique. Et on retouche ici à la distinction dont j'ai déjà parlé. La lutte, la radicalité, ça c'est aussi une phrase que donne souvent Foucault. La radicalité est physique. La radicalité est dans l'engagement physique. Et strictement parlant, aucune philosophie, aucune théorie, aucune pensée conceptuelle ne peut être radicale. Elle ne peut que prendre en compte certaines radicalités et les porter au plus loin dans le champ du savoir.
Il ne peut pas y avoir de lutte dans le champ de la pensée ?
Alors, ce serait précisément le rôle de l'intellectuel attentif aux luttes concrètes que d'opérer, du coup, des luttes d'ordre conceptuel. Alors, Foucault serait peut-être assez d'accord avec ça. Le terme de lutte serait peut-être plus... Alors, est-ce qu'on pourrait encore parler de lutte ? Peut-être pas. En tout cas, effectivement, de produire des déplacements, de produire des jeux dans le champ intellectuel. Foucault dirait plutôt ça ainsi.
Julien Cavagnis, merci beaucoup.
Merci à vous.
Je rappelle que vous interveniez dans le colloque Penser l'émancipation avec cet intitulé La critique foucauldienne de l'idéologie, sa portée problématique, son évolution et ses résultats. Merci beaucoup.
Merci.
Radio Grenouille, la rédaction vous invite pendant 10 minutes.
Géographie de la pensée critique. Penser l'émancipation.
10 minutes avec.